Europe 1. On de la traconte, code B, la suite de votre épisode.
Pendant l'instruction, Michael Filetas renvoie un par un tous les avocats commis d'office qu'on lui propose. Seul le dernier, maître Guillaume Gombard, l'accompagne jusqu'au procès.
Alors initialement, non, je connais pas du tout le dossier. Je me retrouve dans une configuration un petit peu particulière parce que Michael Filetas a pris un peu ses avocats en grippe. C'est-à-dire qu'il a eu le sentiment de ne pas avoir accès à la procédure.
Maître Guillaume Gombard, avocat de Michael Filetas.
Moi, je suis commis d'office un petit peu dernière minute puisque l'avocat est obligatoire à l'occasion d'un procès d'assises. Et c'est dans ce contexte que je vais le voir véritablement tardivement, lui expliquant que je suis pas destiné forcément à intervenir beaucoup, si c'est son souhait, mais que je vais être à ses côtés pour essayer de l'aider au maximum, même si la tâche est peu aisée et j'ai toujours été transparent avec lui, c'est-à-dire que le dossier étant tellement grave qu'il faut être humble et que le rôle de l'avocat, il est nécessairement limité.
Faites entrer l'accusé.
Je m'attends à être accusé par Monsieur Filetas. La réalité, c'est que finalement, et un peu contre toute attente, il ne me récusera pas, il fera le choix de garder le silence quasiment la totalité de l'audience. On a eu des entretiens. À l'occasion de ces entretiens, malheureusement, je trouve qu'il était bien meilleur que ces silences, parce que on peut pas dire qu'il soit pas atteint par les faits qu'il a commis. Il a quand même tué sa compagne, qui était, je pense, l'être le plus précieux. Ça paraît... bizarre de dire ça, mais il a toujours du mal à comprendre finalement son acte.
Monsieur Filetas, je vous le dis, il serait peut-être préférable pour votre sort que vous vous exprimiez devant cette cour. Cessez ce mutisme. Cela ne vous sert pas, vous savez. Et vous n'êtes pas la cour à vous juger.
Je ne l'ai pas perçu du tout comme une défiance, je l'ai vu plutôt comme du respect vis-à-vis des parties civiles. C'est-à-dire qu'il est compliqué de dire pardon avec la plus grande sincérité possible. Parfois, il est préférable de se taire plutôt que d'apporter des explications qui sont inaudibles pour les victimes. Ce que je vais dire est... assez choquant quand on voit ce qui s'est passé dans cette maison. Et je le dis avec beaucoup de respect pour les victimes qui ont en plus fait preuve de dignité à l'occasion de l'audience. Mais il nous a parlé souvent, et c'est ce qui a pu faire rire parfois, ce qui est choquant là aussi, il fait appel à son cerveau reptilien, estimant que lui n'a fait que se défendre, que les coups qu'il a portés étaient essentiellement des coups de défense et non pas des coups d'attaque. Dire cela, c'est quasiment un gros mot pour les parties civiles quand on voit qu'il intervient avec un couteau pour tuer des ours à 3h du matin dans un pavillon en faisant sauter les plombs volontairement. On ne peut pas aller sur cet axe-là et pourtant je pense que c'est une réalité du dossier qu'il a été véritablement dépassé par sa propre personnalité à partir du moment où il a franchi les murs de ce pavillon.
La cour !
Il a pu tout de même présenter des excuses à certains moments, c'est resté relativement lacunaire, mais toujours pareil, avec la conscience de savoir que des excuses vis-à-vis de cette famille qui ne l'aime pas ne servaient à rien. Et ce que décrit l'expert psychiatre, c'est-à-dire que finalement il y a un espèce de sursaut de sa personnalité qui se renferme à nouveau dans une forme d'injustice. Et je pense que trouver un ennemi dans l'institution judiciaire est parfois plus facile que d'assumer la réalité des actes qu'il a commis.
De son procès, Michael Filetas est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec donc une période de sûreté automatique de 18 ans. Il fait appel, et cette fois, il a décidé de s'exprimer.
c'est un homme qui a un certain charisme, c'est un homme qui est grand, sportif, séducteur incontestablement, et qui a un talent réel ou supposé de communication. Il a fait de la communication une profession.
David Senna, avocat général.
Il a développé, je dirais, une compétence qui en fait un accusé extrêmement différent de la plupart des accusés qui, en général, parlent peu, parlent mal, et ça peut se comprendre. Donc il est extrêmement loquace, il est extrêmement prolixe, il parle, il se présente comme un intellectuel, ou en tout cas il se revendique d'un mouvement intellectuel. Donc c'est un homme profondément différent de l'accusé moyen, du meurtrier moyen, parce qu'encore une fois, il adosse son geste à une idéologie, à des idées, à des textes.
Dans ses vidéos de coach en séduction, Michael Filetas ne prodiguait pas que de bons conseils de drague. Il diffusait surtout des thèses misogynes et anti-féministes. Pour lui, la masculinité est en danger. Les femmes dominent trop les hommes. C'est un courant de pensée qui pullule sur la toile et qu'on appelle le masculinisme. Il nous vient des États-Unis avec le mouvement « Men going their own way », les hommes suivant leur propre foi.
Men going on their own way, c'est un mouvement, une communauté qui s'est développée à partir des États-Unis et qui aujourd'hui donc est très présente sur les réseaux sociaux et sur Internet, où finalement chacun peut s'ériger en gourou, influenceur et exercer un rapport d'autorité par l'effet même de la communication. Michael Filetas n'a pas été élu, désigné par quiconque. Il s'est emparé de cette idéologie qui lui a convenu, qui lui convient. Il a créé sa chaîne YouTube, il a créé son activité de conseil en séduction, en coaching, pour lequel il était rémunéré. Et à partir de là, son autorité est née, finalement, de l'audience qu'il s'est créée.
C'est ouf, c'est ouf. Donc, elles sont autour de nous. Il n'y a qu'à regarder aussi des fois juste vos parents. Comment votre mère, elle parle à votre père. Vous regardez comment vos cousines sont avec leurs petits copains. C'est dans la société. C'est que les meufs, elles aiment bien afficher leurs mecs. Elles ont besoin de ça pour avoir l'attention. Et pour aussi, quelque part, faire briller leur putain d'auréole.
Michael Filetas avait déjà été violent avec une femme. 5 ans plus tôt, il avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence sur sa compagne de l'époque. Évidemment, les psychologues, les psychiatres cherchent à comprendre la genèse de sa haine des femmes. Et comme souvent, les réponses sont à chercher du côté de son enfance et plus précisément des secrets de la famille Filetas.
J'ai été d'entrée très frappée par la jalousie de Monsieur Filetas à l'égard de l'ex. Il a tout le temps ce mot à la bouche, l'ex. L'ex de ma compagne, l'ex de mon ami.
Docteur Isabelle Théier, expert psychiatre.
Et cette jalousie se porte toujours sur un tiers. Il va expliquer par exemple qu'il était extrêmement jaloux du troisième de la fratrie, Ludovic, dont il assure qu'il était le préféré de sa mère, à tel point que quand il partait en colonie de vacances, il avait peut-être 20 euros, alors que son frère en avait 6 fois plus. J'ai été très attentive dans le visionnage des podcasts. Or, cette question de l'ex, à mon avis, dépasse très largement Ludovic, puisqu'il parlera très souvent du fantôme dans le placard. Alors, on parle souvent du cadavre dans le placard, mais il parle tout le temps d'un fantôme dans le placard. Qui est ce fantôme dans le placard? Sachant qu'évidemment, pour la psy que je suis, un placard, c'est quand même extrêmement matriciel. Ça renvoie à la matrice, ça peut tout aussi bien renvoyer à la matrice d'une femme.
Code B135, expertise psychiatrique du docteur Isabelle Théier. Chez Monsieur Filetas, il y a au cœur de son histoire intime, restée comme gelée, la question de la mort à sa naissance d'un frère aîné, David. Michael Filetas dira qu'il a découvert son existence sur le livret de famille par un trait qui le barre sans que jamais ses parents ne lui en aient parlé. Les aspects mortifères du secret de famille ont pu infiltrer la construction de la personnalité à l'adolescence.
Il peut exister ce qu'on appelle un lien hostile dépendant de la mère à l'enfant, un lien teinté d'ambivalence. D'abord parce que l'enfant ne remplit pas tout à fait les conditions qui font qu'il n'est pas, à proprement parler, l'enfant qui est mort. Il essaie d'être ce qu'il est, sauf qu'il est effectivement assigné à la place du mort. Et il est sans cesse l'objet d'une comparaison invisible entre l'enfant qui est mort et lui. Il doit rivaliser en fait avec un mort, ce qui n'est pas tout à fait facile, dans l'esprit de la mère en tout cas. C'est une de mes hypothèses psychodynamiques dans cette histoire. C'est que, outre la configuration, attention, il y a aussi la configuration parentale du couple formé par le père et la mère, qui éclaire aussi la haine absolument meurtrière de Michael Filetas à l'égard des femmes.
Pour Michael Filetas, ses parents d'origine antillaise formaient un couple déséquilibré. Sa mère portait la culotte, elle tenait le foyer et elle dominait un père effacé et alcoolique.
La seule chose, c'est qu'il semble que cette configuration a pris une ampleur excessive avec une mère qu'il décrit comme arbitraire, extrêmement arbitraire, autoritaire, voire même despotique, et un père dont il tente de minimiser l'alcoolisme, qui est pourtant repéré par l'une de ses amies comme étant au cœur de la séparation entre les deux parents. Donc un père alcoolique dont il va, selon moi, beaucoup parler dans ses podcasts, en s'adressant non pas à lui, mais à un certain tonton. Un tonton qui se ferait couper les coronets par sa femme. Tout au long de l'analyse que je ferai de Michael Filetas, je verrai bien qu'il y a une fantasmatique éminemment meurtrière à l'égard des femmes, et à travers elle, à l'égard avant tout de sa mère. Il va de soi que ça n'est pas seulement la question de l'enfant de remplacement, qu'il n'y a pas une explication univoque, mais que cet élément et beaucoup d'autres fondent la personnalité de Michael Filetas.
Monsieur Filetas, il s'agit donc aujourd'hui de votre procès d'appel pour l'assassinat de Mélanie Guillaume et deux tentatives d'assassinat commis sur sa sœur et son petit ami. Qu'avez-vous à dire sur les faits et quelle est votre position ? J'ai rien prémédité. Je voulais pas tuer Mélanie. Si je suis venu chez elle avec le couteau, c'est parce que je voulais me suicider. J'étais désespéré qu'elle ait un autre gars.
Il se replace au cœur de ce procès, non pas comme auteur, mais comme victime.
David Sénat, avocat général.
Il est figé dans le déni face à l'évidence. On a dans ce dossier des éléments qu'on a rarement. On n'a pas l'ombre d'un doute. On est face à quelqu'un qui va mettre en scène, organiser rationnellement, scientifiquement, sa vengeance, c'est-à-dire un assassinat. Il va se rendre à deux reprises dans un magasin pour se procurer deux pieds de biche pour accéder par effraction dans la maison. Quelqu'un qui va se rendre dans une armurerie, se procurer plusieurs paires de menottes, cagoule, des gants. Il va se procurer un premier couteau, qui est un couteau déjà conséquent, qui permet évidemment de tuer. Et puis, il va se rendre une deuxième fois dans cette armurerie. Et là, il va demander de façon tout à fait claire un couteau d'armement militaire, hein, qu'utilisent les Marines américains depuis 1942, donc quelque chose qui est directement conçu pour tuer l'ennemi. Et donc, il est passé à l'acte à partir d'un hôtel. Il se rend à pied une première fois à la maison. Il se rend compte que la victime n'est pas là parce que sa voiture n'est pas là. Il rebrousse chemin. Il revient quelques heures après. Et là, bah, il est certain que sa victime est là. Il entre, il fracture les portes. Il monte à l'étage. Il commence par tenter de tuer le premier témoin gênant, le premier obstacle qui est Mallory, qui là aussi va laisser pour morte. 30 coups de ce couteau sur cette jeune femme, elle aurait dû mourir. Et après, bah, il monte à l'étage et il tente de tuer Brian, il tente de tuer Mélanie, il n'y arrive pas à ce stade, il la rejoint, il la tue. Donc c'est vraiment un geste qui dépasse de très loin la gravité du féminicide que je qualifie là encore une fois de classique, mais il faut bien me comprendre, en ce sens que ça n'a strictement rien d'un réflexe, d'un geste isolé, ou spontanée qui arrive malheureusement trop souvent, là on est dans la préparation rigoureuse, réfléchie, froide de cet acte.
Monsieur l'avocat général, vous avez la parole pour vos réquisitions.
Je crois que c'est la personne qui m'a inspiré le plus d'inquiétude par rapport à une dangerosité durable, froide, qui est à la fois psychologique, criminologique, idéologique. C'est un individu qui est totalement radicalisé. J'ai employé l'expression de radicalisation qu'on emploie à propos de la radicalisation islamiste, mais c'est exactement le même phénomène. Et tant que cet homme ne sera pas déradicalisé, il sera dangereux, aussi bien qu'un individu radicalisé dans le domaine islamiste est dangereux tant qu'il n'est pas déradicalisé. Il fait partie des dossiers que l'on porte avec soi. Je ne sais pas où on le porte exactement. Est-ce dans le dos, est-ce dans sa tête, dans un coin de son cerveau, mais ça fait partie des dossiers que l'on porte avec soi et qu'on portera longtemps, incontestablement.
En appel, Michael Filetta s'écope à nouveau de la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté augmentée qui passe de 18 à 22 ans. Ainsi se termine ce numéro dont de la traconte version code B. Enquête aujourd'hui de Guillaume Maury. Réalisation Guillaume Vasseau.
Retrouvez On de la traconte code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.